Pour réussir le pass, il faut faire preuve de persévérance et de méthode. Mais rassure-toi, ça s'apprend. Ici Luca de la team Hermione et bienvenue dans Road to Numerus, le podcast dans lequel on décortique le succès d'autres étudiants qui ont réussi le pass. Ensemble, on va se plonger dans leur routine de travail pour que tu évites les pièges dans lesquels ils sont tombés et que tu profites de leurs meilleurs conseils pratiques pour réussir cette année. T'es prêt ? Parce que ça part de là. Quand t'arrives en passe, t'as l'impression de prendre une claque. C'est beaucoup de travail, c'est dur et c'est compétitif. Alors pour augmenter tes chances de réussite, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'apprendre à travailler efficacement. Après avoir réussi la première année, on s'est réunis avec des professeurs et des spécialistes de la productivité et ensemble, on a créé la méthode PASS. C'est notre formation en ligne captivante qui te donne les méthodes pour travailler efficacement. En gros, on te prend par la main pour que tu passes d'un lycéen qui a du mal à travailler en un étudiant très productif. On t'apprend à t'organiser, à te concentrer et à mémoriser pour que tu gagnes des places au classement. Alors si ça t'intéresse, rendez-vous sur hermione.co. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Muriel du compte Estude Medicina sur Instagram, qui était d'abord en terminale S à Montargis, donc pas très loin d'Orléans, et qui est actuellement en troisième année de médecine en Espagne.
Parfait.
Comment t'en es arrivée là ? C'est un parcours un petit peu atypique là, de faire ses études en médecine en tant que française. Raconte-moi un petit peu pourquoi ce choix.
Oui, alors déjà, mes deux parents, ils sont dans le domaine médical. Mm-hmm. Donc, depuis toujours, on va dire, j'ai voulu être médecin. Donc, c'est vraiment, je pense, une vocation. Et j'ai pas fait PACES parce que j'ai un proche qui a fait PACES et qui a eu des meilleurs résultats tout au long de sa scolarité que moi. Et il n'a pas eu médecine en France. Il a eu dentaire et pharma. Et du coup, bah, j'ai eu comme un petit blocage, on va dire. Et même si on n'a pas du tout la même méthode de travail, tous mes proches, mes parents, mon frère, ils me disaient « Oui, tu aurais pu réussir parce que tu n'as pas du tout la même méthode de travail. » On est vraiment les opposés. Mais bon, j'ai eu un gros blocage même. Et donc du coup, bah, j'ai préféré aller directement en Espagne, vu que ce proche-là, bah, il était déjà en Espagne, donc je me suis dit je ne serai pas toute seule. Donc voilà, et puis j'ai toujours voulu aller vivre en Espagne, donc une carte de fou.
Ok, du coup, pourquoi en Espagne ? C'est quoi la différence concrètement par rapport à un pass comme pourrait l'être en France ?
Alors déjà, pas la Belgique, même s'ils parlent en français, parce qu'il y avait aussi un concours. Et moi, c'était vraiment l'esprit du concours qui me faisait un peu peur et que j'étais un peu traumatisée par le biais de cette personne. En Espagne, en fait, c'est pas un concours. C'est directement, tu rentres en première année de médecine. Mais en soi, on va dire, c'est comme un mini concours, mais pré-rentrée. C'est-à-dire que pendant l'année de terminale, ou si par exemple là vous êtes en PASS ou PACES ou LAS, et ben pendant cette année-là, on passe des examens. C'était en présentiel à mon époque parce qu'il n'y avait pas le Covid, le confinement, tout.
Ouais.
Du coup, là, je ne sais pas trop comment ça se passe, si ça peut se faire en ligne ou pas. Mais donc, du coup, ben, on passe comme des examens, ça dépend des universités. Il y a certaines universités. Qui demandent juste des examens de langue, d'autres qui demandent des examens de langue plus chimie, biologie, mathématiques, et certaines même, ils demandent aussi des tests de psychotechnique. Et avec ça, ils font une moyenne avec les notes, des bulletins de notes de seconde, première terminale, il me semble, et les notes du bac. Et vu que moi, par exemple, je l'ai fait en terminale, je n'avais pas encore les notes du troisième trimestre ni les notes du bac. Mais ce n'est pas grave, ils nous ont dit vous les apporterez plus tard et ils les prendront en compte, mais plus tard.
D'accord, donc ce n'est pas un concours, c'est-à-dire où pendant un an, tu travailles en concurrence avec plein d'autres étudiants, il y a très peu de place. Là, c'est plutôt en fait une sélection sur les notes, moins que sur l'effectif, en fait, c'est ça ?
Sur les notes et sur bah, du coup, les examens qu'on passe. Par exemple, moi, pour les examens de langue, vu que je ne suis pas espagnole, j'ai dû passer anglais et espagnol. Les espagnols, ils avaient juste à passer l'anglais. Et vu que je suis pas espagnole, j'avais pas un niveau de ouf en espagnol. ce qu'on apprenait au collège et au lycée, c'est pas ça qui nous permet d'avoir un super niveau. Ils m'ont dit, enfin, une des universités dans lesquelles j'ai postulé m'a proposé de faire une année de pharma. Et à la fin de cette année, si j'avais réussi tous mes partiels sans les rattrapages et qu'à la fin de l'année, je repasse à nouveau l'examen d'espagnol, justement, et que j'atteins le niveau requis, je pouvais passer en médecine à cheval entre la deuxième et la première année.
Ah ok, donc une espèce de passerelle un peu spéciale, une espèce de temps d'adaptation, une année d'adaptation pour que tu puisses peut-être apprendre mieux l'espagnol, apprendre mieux le jargon de la médecine espagnole, j'imagine, pour pouvoir t'adapter, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et aussi, bah, vu que je suis passée à cheval entre la deuxième et la première année, c'est parce que en pharma, il y avait quelques matières qui se... Je sais pas si ça se dit en français comme ça, qui se convalidaient.
Qui s'est convalidée, ça veut dire qu'elles étaient interdépendantes?
En gros, ça fait comme une équivalence, on va dire. Certaines matières de pharma et médecine, ils considèrent qu'ils enseignent à peu près les mêmes choses.
Oui.
Donc, du coup, ils faisaient comme une équivalence et ces crédits-là, ils étaient comptés comme faits. Et du coup, j'avais pas à refaire ces matières-là en médecine.
Ah, d'accord, je vois. Et ce parcours-là que tu as fait, il est très spécial à toi ou n'importe quel Français qui est pas si mauvais en espagnol ou alors qui veut apprendre l'espagnol en même temps pourrait le faire?
Ouais, non, c'est pas spécifique à moi. J'ai rencontré aussi des amis qui ont fait ça pareil. Et c'est surtout des Français qui décident de faire ça parce qu'en général, les Espagnols, s'ils n'ont pas médecine dans des facs privées, parce que moi je suis dans une fac privée, je ne peux pas entrer en public, les Espagnols, ils vont essayer en public.
D'accord,
Donc
d'accord.
ils sont beaucoup moins à faire cette passerelle-là.
D'accord, tu parles des coûts d'école privée. Est-ce que ça pourrait s'apparenter un peu comme une prépa à la française, mais qui donnerait un diplôme à la fin de la première année?
Alors la prépa, je ne sais pas du tout.
Tu sais, enfin, les prépas médecine, on va dire, c'est par exemple, je sais pas, moi je pense à, je sais pas, Galien, Thalès, à Montpellier, on a aussi IPE Sud. Enfin, voilà, c'est des prépas qui aident à préparer le concours de première année de médecine. Donc, je me demandais si l'école privée dont tu parlais, dans laquelle tu étais, c'était un peu la même chose, mais qui, elle, pouvait donner le diplôme, quoi.
Non, en fait, c'est que c'est une fac privée et je fais toutes mes études dedans. C'est
Ah,
pas juste la
d'accord,
première.
d'accord. Ah mais ça change tout. Ok, c'est complètement différent par rapport à par rapport au parcours d'orientation en France, du coup.
Ah
Ok. Et niveau quantité de travail, est-ce que c'est comparable? Je sais pas si t'as peut-être des amis qui ont fait médecine en France. Est-ce que c'est comparable? Parce que bon, c'est vrai qu'en France, la première année, elle est vraiment très difficile.
ouais. Ouais, j'en ai vu, je l'ai vu avec justement la personne que je connais qui a fait PACES.
Ah oui.
Et ouais, non, il travaillait tout le temps, il s'arrêtait jamais. Bon, je vais pas mentir, moi aussi je travaille énormément parce que je suis pas le genre de fille qui aime sortir. Je suis plutôt casanière. Donc, je travaille beaucoup et en fait, c'est parce que j'aime ce que je fais et je vois pas le temps passer. Donc, je sais pas, je pourrais pas trop comparer, mais quand j'étais en pharma la première année, c'est surtout à cause de la langue, on va dire. J'ai dû travailler 2 fois plus, on va dire, que les Espagnols. Parce que la langue, c'était un peu une barrière. Mais ouais, j'étais beaucoup plus fatiguée parce que je devais être beaucoup plus concentrée. Et puis, pour mieux comprendre, il y avait certains mots, à chaque fois, je devais me couper en plein milieu de la phrase pour chercher la signification de ce mot-là, etc. Donc, ça reste quand même du travail. C'est, on va dire, principalement à cause de la langue, que c'est beaucoup plus de travail.
D'accord. Donc c'est pas forcément la quantité de cours en soi, ni la pression du concours, mais c'est plutôt devoir traduire tous ces cours, quoi.
Ouais, bah, après, moi, je travaillais tout en espagnol et même maintenant, je cherche pas à traduire en français. parce que bah, je me dis, ça sert à rien que je m'embrouille l'esprit à traduire, alors qu'au final, bah, les examens, ils vont être en espagnol. Les patients, quand je vais les voir à l'hôpital ou quoi, ça va être en espagnol que je vais leur parler. Donc, ouais, non, je cherche vraiment pas à traduire en soi. C'est vraiment pour comprendre, on va dire, l'idée.
D'accord. Et du coup, par rapport au lycée, tu me disais que tu avais déjà une méthode de travail bien établie. Est-ce que tu as dû changer quelque chose dans ta façon de travailler? Peut-être quand tu as dû bah, du coup, adapter tes cours, enfin adapter tes cours. Ce que je veux dire, c'est plutôt comprendre l'espagnol pour comprendre tes cours.
Ouais, bah, au lycée, on va dire que j'avais un peu lâché prise, je travaillais beaucoup moins que par exemple au collège, enfin, parce que j'ai, on va dire, toujours eu un peu de facilité. Donc, du coup, bah, je travaillais pas au jour le jour au lycée et ni à l'année du bac. Mais une fois que je suis arrivée ici en Espagne et que je voyais la quantité de travail qui m'attendait, par rapport au cours en soi, mais aussi par rapport à la langue, je me suis dit, dès le premier jour, je vais directement travailler au jour le jour, parce que sinon, je peux accumuler beaucoup de retard et ça va me stresser. Et je me dis que c'est un stress inutile parce que je peux le gérer, en amont.
D'accord, ok. Et du coup, est-ce que, bah, je suis curieux, hein, sûrement que tu as eu un moment de retard, non? Un moment où tu galérais un petit peu avec tes
Ah
cours en
ben, bien
espagnol
sûr.
et tu as accumulé du retard. Et comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux me raconter la fois où tu étais le plus en retard que tu te rappelles là?
Alors, déjà en Espagne, enfin dans la fac où je suis, et je pense que c'est pareil dans toutes les facs, on a des examens. Il faut réussir chaque examen avec minimum 5 sur 10. Ça ne fait pas la moyenne entre chaque examen. Et si on rate un des examens ou plusieurs, on a plusieurs possibilités de rattrapage. On a une première possibilité en même temps que le prochain examen de cette matière. Et puis ensuite, on a encore une deuxième possibilité au rattrapage généraux en juillet. Donc moi, quand j'avais beaucoup de retard, on va dire que je privilégiais les matières au plus gros crédit, on va dire le plus gros coefficient, si tu veux. Et donc, du coup, bah, je travaillais plus ces matières-là et je laissais un peu de côté les plus petites matières parce que je me dis, bah, je les ferai au rattrapage. Ou sinon, je les travaille, mais vraiment, je survole un peu le cours, je ne vais pas dans les détails. Et je me dis, bah, je vais au partiel, je tente, parce que qui ne tente rien n'a rien au final. Et donc, du coup, bah, voilà, mais je privilégiais vraiment les plus grosses matières, on va dire.
Ok, et c'était quoi les matières que tu avais, toi? Parce que du coup, nous, en France, on a physique, chimie, on a des maths, on a de la nat, on a plein de trucs. Et qu'est-ce que toi, tu avais comme matière, en fait?
Ouais, la première année de médecine, on a de l'anatomie, de la physiologie, de la biologie cellulaire, la chimie organique, je crois que ça se dit comme ça en français, la chimie organique 1 et chimie organique 2.
Ouais.
On a de l'anglais sanitaire, c'est-à-dire qu'on apprend le langage médical, comment parler aux patients, l'histoire clinique, tout ça en anglais. Il me semble c'est tout. Mais avec ma première année de pharma aussi, j'avais énormément de chimie et j'avais aussi des maths.
Ok, donc c'est en fait théoriquement c'est très similaire à ce qu'il y a en France en fait, concrètement. D'accord. Ok, et du coup, j'imagine que tu sais, les moments où tu étais en retard un peu, tu m'as raconté les moments où tu étais bah, du coup loin de la France et tout. Est-ce que tu as eu des moments où tu sentais ta motivation un peu à zéro et avec du recul, tu penses que c'était dû à quoi?
Avec du recul, alors je.
Est-ce que tu en as eu déjà? Est-ce que tu en as eu déjà?
Oui, bah en soi, je pense tout étudiant doit passer par là. Enfin, je pense que ça serait mentir que dire que non, jamais passé par là. Mais ouais, bien sûr, je suis passée par là et pas juste une seule fois et tous les ans. Et même là, il y a 2 semaines, quand j'étais en pleine période de partiel, je me disais non, mais c'est bon, j'ai envie de tout arrêter, j'en peux plus. Donc non, mais après, bah, je peux compter vraiment sur le soutien de mes parents, de mon frère et de ma meilleure amie, même si ma meilleure amie, elle fait pas du tout médecine, elle est vraiment dans les langues, dans le droit, tout ça. Donc du coup, Elle me comprend quand même parce que elle me connaît vraiment bien, elle connaît ma personne et comment je suis. Mais ouais, je pense vraiment le principal, je dirais, c'est vraiment le soutien de ses proches. Et ils seront toujours là pour, bah, pour nous dire que non, si on a décidé de faire ça, c'est vraiment pour quelque chose. Et à chaque fois, ma meilleure amie, elle me dit, rappelle-toi pourquoi est-ce que tu voulais faire ça? Pourquoi tu prends la médecine? Pourquoi tu veux... Enfin, parce qu'elle sait aussi que je veux travailler avec les enfants plus tard. Donc, du coup, elle me dit, oui, c'est ton rêve depuis toute petite. Donc, non, il n'y a pas moyen, tu ne vas pas lâcher, c'est mort, je ne vais pas te lâcher, moi. Vraiment, le soutien des proches, je dirais, c'est le plus important.
Ouais, bah oui, je suis complètement d'accord avec toi. Avoir des proches qui te soutiennent dans ta démarche, c'est un sacré boost parce que du coup, eux, ils arrivent à être objectifs par rapport à la situation et pas comme toi qui est très subjective, qui vit un peu les galères au quotidien. Eux, ils voient pas ça, eux, ils voient juste le futur dont tu parles, le futur dont tu rêves. Et du coup, c'est une grande chance. C'est une grande chance que tu as d'avoir des proches qui peuvent justement t'aider comme ça parce que là, récemment, j'invitais quelqu'un d'autre sur le podcast, elle me racontait que justement, c'était l'inverse. Ses proches étaient plutôt négatifs envers des moments où elle avait des coups de mou et tout. Et du coup, ça l'avait vraiment pas aidé. Donc,
Ouais.
franchement, j'espère pour ceux qui nous écoutent que vous avez un entourage qui peut vous aider, qui peut vous reconnecter un peu avec votre rêve. Et si c'est pas le cas, mieux vaut leur en parler tôt, mieux vaut leur parler tôt du fait que vous allez avoir besoin d'aide et que il faut qu'ils soient là pour vous soutenir, quoi.
Exactement. Et aussi, je pense, si vous êtes dans ce cas-là, il faut vraiment trouver des personnes de confiance, même si ce n'est pas vos parents ou vos frères et sœurs. Vous pouvez en parler à votre oncle, à votre tante, à vos cousins-cousines ou même des camarades de classe. Au final, OK, la PACES, la PACE, tout ça, c'est un concours, mais il faut rester humain au final. Il faut, si vous voyez quelqu'un qui n'en peut plus, qui est au bord, j'exagère un peu, mais on va dire au bord du suicide ou quoi, allez l'aider, quoi. OK, c'est un concours, mais au final, vous êtes des humains, vous n'êtes pas des robots. Et si vous êtes dans le cas de cette personne-là, vous auriez vraiment aimé que quelqu'un vienne à votre rescousse, on va dire.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. De très très belles paroles. Tout à fait. Alors du coup, raconte-moi un petit peu le parcours du coup d'études en médecine en Espagne. Du coup, tu m'as dit que c'était une école privée dans laquelle tu allais faire tes études dans leur intégralité. Et j'imagine que comme en France, le cours de ces études, tu as eu l'occasion de faire tes premières expériences. Tu m'as parlé de notamment un stage.
Oui. Alors déjà, dans mon université, on a un hôpital simulé. Donc, c'est-à-dire, il y a plusieurs chambres comme dans les hôpitaux avec des mannequins. Et ces mannequins, ils sont électroniques, on va dire. C'est-à-dire, on peut vraiment ausculter le cœur, les poumons. Il y en a même, par exemple, pour les sages-femmes ou quoi, bah, c'est des femmes qui sont en train d'accoucher, il y a le bébé qui sort, etc. Et c'est vraiment bien fait.
C'est dingue ça.
Ouais. Et c'est pas comme ça dans toutes les facs, mais dans la plupart dans lesquelles j'ai postulé, c'était comme ça. Donc vraiment, c'est bien. On est vraiment bien accompagnés et bien formés, je trouve, dès la première année. Parce que dès la première année, justement, on a l'hôpital simulé. Aussi, en anatomie, on a des dissections. Des cours de dissection, on peut voir directement les muscles, les insertions des muscles, la vascularisation, l'innervation, tout ça directement sur les corps. Donc, vraiment, dès la première année, on est vraiment bien formé, on va dire. Et c'est ça que je trouve un peu dommage en France, c'est que bah, je pense qu'ils attendent la troisième année pour vraiment bien commencer, ou la deuxième, je sais pas. Mais en gros, c'est pas dès la première année et je trouve ça un peu dommage.
Du coup, tu es plongé directement dans le bain, tu es mis à la pratique tout de suite.
Ouais.
Ok.
Et après, bah, on a eu les stages et aussi j'ai eu la chance de faire quelques stages volontaires dans l'hôpital près de chez moi. Et donc, du coup, bah, dans les stages volontaires, on va dire, je faisais aux urgences. Et les stages obligatoires avec la fac et tout ça, j'ai commencé là en septembre dernier.
Ok, donc en tout, t'as à peu près combien d'expériences de stage?
Bah, on va dire Pendant 3 ans, chaque été, je faisais 4, 5 semaines, donc on va dire 3 mois
Ouais.
en tout. Et là, septembre, depuis septembre, on avait un jour de stage à l'hôpital par semaine.
Ok. D'accord. Du coup, c'est vraiment complètement différent par rapport au système en France. C'est intéressant ça, intéressant. Et comment tu vis tes stages? Qu'est-ce qui te marque le plus?
Bah, franchement, on est un étudiant par médecin. Donc du coup, vraiment, on est très bien accompagné si on a des questions. Aussi, les médecins, ils nous mettent directement à l'aise. Je ne sais pas trop comment ça se passe en France avec les stages universitaires, mais ici, les médecins, ils nous mettent vraiment à l'aise. Et dès qu'on a une question ou quoi, ils nous disent posez-la directement parce qu'au final, il n'y a pas de question bête. Et vraiment, la personne qui est bête, c'est celle qui garde la question pour elle et qui reste avec le doute au fond d'elle jusqu'à toujours, quoi.
Ah oui, clairement. Puis même, là, on parle de vie humaine. Donc là, mieux vaut savoir une bonne réponse que faire n'importe quoi. Hein, tout à fait. Tout à fait. Et alors, est-ce que tu peux me raconter un moment qui t'a, vu que tu as fait un stage, enfin, tu as fait plusieurs stages, plusieurs périodes de stage aux urgences. Je suis sûr que tu as dû voir des choses assez incroyables. Est-ce qu'il y a une petite anecdote dont tu veux nous parler?
On va dire la première année, vu que j'avais pas encore trop de compétences médicales, je faisais vraiment juste observer.
D'accord.
Mais, la deuxième année où j'ai fait le stage aux urgences, bah, les médecins, ils me laissaient un petit peu. Déjà, ils me laissaient avec les internes. Et donc, du coup, bah, les internes, ils me laissaient de temps en temps aller voir le patient toute seule. Surtout les patients pour qui viennent à cause d'un trauma. S'ils ont mal au poignet et tout ça, et ils me laissaient moi leur poser les questions pour faire l'histoire clinique,
Ouais.
vraiment comme un bébé médecin quoi. Et j'étais trop contente la toute première fois que j'ai fait ça et que le médecin il m'avait dit bon, je te laisse y aller toute seule cette fois-ci. Et moi je l'ai regardé, vous êtes sûre? Il m'a dit oui, tu vas, tu poses des questions, n'aie pas peur. Tu te présentes bien, surtout tu dis je suis étudiante en médecine et je vais vous poser quelques questions, etc. Et après tu reviens me voir et tu me dis ce que t'en penses. Et après, du coup, bah, j'y suis allée. Je me rappelle, c'était un jeune homme, il était venu parce qu'il avait super mal au niveau du cinquième doigt de l'auriculaire. Et donc, du coup, bah, je lui ai posé toutes les questions, j'ai regardé sa main, etc. J'ai comparé les deux mains. Et après, au moment du débrief avec le médecin, je lui ai expliqué et tout. Et il m'a dit, tu sais comment ça s'appelle, ça? J'ai dit non. Il me dit, et du coup, bah, ça m'a vraiment marqué. Il m'a dit, ça s'appelle la fracture du con. En gros, en gros, c'est parce que le jeune homme, il était énervé, il a foutu un gros coup de poing dans le mur. Et du coup, bah, il s'est fracturé le métacarpe.
Ah, au niveau de la du de la entre la main et la phalange.
Ouais.
D'accord.
Et donc, du coup, il m'a dit ça, j'ai pas pu me retenir de rigoler. Au début, je pensais il disait ça pour rigoler et pour se foutre un
Ouais.
peu de moi, quoi. Je l'ai regardé, j'ai fait vraiment. Après, il dit oui, vraiment.
Alors, comment on dit en espagnol la fracture du con?
Alors là, je ne sais pas déjà si cette expression, elle se dit pour cette fracture, mais si on traduit littéralement, ça serait la fractura del cogno après.
Ok, sympa, sympa. Ça a dû être drôle sur le moment. J'imagine que ça a dû
Ouais,
être très drôle. Mais vous l'avez pas dit au patient quand même.
non, non, non. Enfin, après, ce médecin, il est vraiment, enfin, on va dire, il est très cash. Donc, il lui a dit lui, mais moi, j'ai rien dit du tout. Mais il lui a dit, bon, monsieur, vous souffrez de la fracture du cou.
Ah oui, ils ont l'air bien détendus les médecins chez toi là. Ça a l'air sympa. Ok.
Ouais.
Et du coup, est-ce que ces stages, ils t'ont aidé à confirmer un peu à ton orientation.
Ah, clairement. Parce que bah, je me suis rendu compte que vraiment ce que je veux faire dans ma vie, c'est aider les autres et être utile bah, pour les autres et faire en sorte que leur vie soit le mieux possible, on va dire. En gros, les aider s'ils souffrent de quelque chose, même si c'est pas les soigner à 100% et les guérir, on va dire, bah, être là pour eux, pour pour les soulager, pour soulager leurs douleurs, mais aussi les médecins. On voit beaucoup les médecins qui n'ont pas le temps de discuter avec leurs patients, etc. Mais moi, je trouve ça vraiment important de d'avoir du temps pour discuter avec le patient parce que, bon, au final, il y a certains patients, ils viennent nous voir, enfin, ils viennent voir les médecins pour vraiment parce qu'ils ne se sentent pas bien et on peut vraiment comprendre leur douleur et où est-ce qu'ils ont mal ou leur pathologie et tout, vraiment en les écoutant avant de les ausculter, de regarder les radios, les IRM, les scanners, etc.
C'est un très très beau message que tu viens de dire. Tu parlais d'humanité tout à l'heure, et bah écoute, c'est très très humain ce que tu viens de dire. Félicitations. Il nous faut plus de futurs médecins comme toi.
J'essaye de le faire voir.
Bah écoute, si tu veux, maintenant on peut parler un peu de ton petit compte Studygram que tu as sur Insta, parce que du coup, c'est pour nos auditeurs, c'est là que j'ai connu du coup Estoud Medicina, donc Muriel, sur Instagram, parce que j'avais organisé un petit post pour aider notre communauté à travailler pendant le confinement. Avec des petits conseils, et j'avais fait appel un peu à la communauté, et c'est là que bah, tu as répondu présente, et tu m'avais donné des super conseils. Du coup, j'aimerais un peu qu'on en parle. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ce compte?
Alors, il me semble que je l'ai lancé quand j'étais en pharma. Et justement, vu que bah, j'étais un peu loin de mes proches, enfin, c'était la première année où j'étais aussi loin pendant autant de temps, enfin, loin de mes parents, je me suis dit, bah, ça va me faire un peu de compagnie. Et puis, ça va me faire passer le temps en fait. Et au tout début, je me disais, oui, je fais ça, je vais pas être régulière parce que c'était pas vraiment mon truc au début. Mais après, bah, j'y ai pris goût, je voyais que y avait certaines personnes et me posaient des questions bah, sur l'organisation ou sur vraiment juste pour discuter et qui me disaient, oui, ça me fait du bien de discuter avec toi, t'es trop gentille, etc. Bah, je me suis dit, bah, franchement, ça fait vraiment plaisir de voir que je peux aider des personnes parce que comme je t'ai dit plus tôt, vraiment mon but dans la vie c'est d'aider les personnes, de d'être utile à ces personnes-là, aux autres et donc du coup bah, le fait de voir que ces personnes m'envoient des messages pour me dire merci grâce à toi je suis plus motivée ou merci grâce à toi je sais que je veux faire médecine ou je sais que je veux faire pharma, etc. Bah, ça m'a un peu rendu vraiment fière, même si j'ai du mal à être fière de moi-même, mais ça m'a rendu fière de pouvoir aider et malgré la distance, parce que ces personnes-là sont à des milliers de kilomètres de chez moi ou à des centaines de kilomètres de chez moi, mais j'ai pu les aider. Donc du coup, bah, au fur et à mesure du temps, on va dire que j'ai donné de plus en plus de conseils vraiment études en général et pas juste médecine, parce qu'au tout début j'étais vraiment axée très médicale, etc. Mais au fur et à mesure du temps, bah, je suis plus dans le domaine juste de l'étude et je suis là pour conseiller et puis donner mes petits conseils que j'ai pu, des choses que j'ai pu apprendre au cours de ma petite vie, parce que je suis pas très âgée encore, mais
Ah,
ouais,
c'est
voilà.
intéressant parce que moi, ce qui m'a sauté aux yeux sur ton compte, c'est bon, tu parlais d'humanité. Je trouve que ton compte est très humain, il n'est pas surfait, il n'y a pas de fioritures ou
Merci.
quoi, c'est vraiment bien fait. Et en plus de ça, c'est intéressant parce que tous tes posts, toutes tes stories, tu les traduis en anglais et en espagnol, donc français, anglais, espagnol. Et du coup, ça permet en fait à des gens de communautés différentes de pouvoir te suivre et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Parce que c'est vrai que c'est bah, honnêtement, je crois que c'est le seul Studygram que je connais qui du coup traduit tout ce qu'il fait en trois langues.
Ouais, je t'avoue que ça demande plus de travail du coup,
Ouais, bah bien
parce
sûr.
que à chaque fois je dois traduire. Mais non, franchement, ça me fait super plaisir parce qu'au final, bah, j'aide des personnes qui parlent français. En général, c'est des Français, Françaises ou des personnes qui sont au Maroc ou en Algérie. Mais j'aide aussi des Anglais, des Américains. Il y a même des personnes, bah, des Espagnols, mais il y en a aussi qui sont en Amérique du Sud, etc. Donc, je trouve ça ouf que juste moi, ma petite personne, puisse aider autant de personnes, mais dans le monde entier, en fait. Et ouais, c'est une bonne satisfaction Et si on me dit est-ce que tu es fière de toi ou de quelque chose dans ta vie, bah, je dirais ça en premier parce que c'est vraiment quelque chose qui me rend fière de pouvoir aider les autres et de les aider et de leur donner des conseils à mieux réussir dans leurs études au final.
N'hésitez, faut surtout pas hésiter, hein. Si vous voulez suivre un peu les actualités de Muriel et vous entraîner en même temps à l'anglais et à l'espagnol, il faut absolument suivre ses posts, hein.
Il y avait quelqu'un qui m'avait dit ah, c'est cool, je suis en train d'apprendre l'espagnol grâce à toi, grâce à tes posts. Donc, moi, j'ai dit bah, avec plaisir. Hein.
Ouais. Et du coup, si un lycéen, imagine un lycéen en France comme toi, hésite un petit peu dans ses choix, il n'est pas trop sûr. Est-ce qu'il est capable de faire PASS en France ou LAS? Qu'est-ce que tu lui dirais et comment tu lui conseillerais de suivre le même parcours que toi? Comment t'as fait en fait?
Alors moi, vu que j'étais déjà très sûre de mes décisions et du fait que j'allais directement en Espagne sans essayer PACES, bah je dirais pendant ton année de terminale, et même si tu peux t'y prendre un peu plus à l'avance, mais si par exemple là actuellement tu es en seconde ou en première, mais si là tu es en terminale, il n'y a pas de souci parce que moi je ne l'ai pas fait du tout. C'est de vraiment bien te concentrer sur l'espagnol. S'il le faut, tu prends des cours particuliers si tu en as les moyens. Et si tu n'as pas trop les moyens, bah, sur Internet, sur ton portable, il y a plein d'applications qui te permettent de vraiment bien développer ton espagnol. Certaines applications qui sont gratuites et d'autres payantes, mais en soi, c'est pas très cher de celles que j'ai pu voir. Et ouais, vraiment de bien te concentrer sur l'espagnol parce que c'est vraiment le plus important parce que moi, ça me prenait 80% de mon énergie les 5 premiers mois, quoi.
Ouais, j'imagine que si on mettait un œuf sur ta tête, il pouvait cuire, quoi.
Ouais. Exactement.
Ok. Et niveau de l'inscription à une fac privée, du coup, en Espagne, comment ça s'est passé?
J'ai dû déjà payer une certaine somme, ça dépend de chaque fac, pour passer les examens d'entrée. Et donc du coup, bah, après, on a déposé le dossier, c'est-à-dire les bulletins de notes de seconde, première, terminale. Et si actuellement vous êtes en PASS, PACES, LAS ou dans une autre filière et que vous avez envie d'aller en Espagne pour faire médecine, ou même dentaire ou pharma, bah, directement aussi les notes du bac. Et après, on pouvait choisir sur le site officiel de l'université une des dates proposées pour passer les examens justement d'entrée dont j'ai parlé au tout début. Et après, bah, à mon époque, bah, c'était en présentiel, donc du coup, bah, j'ai dû venir en Espagne, en l'occurrence à Madrid, pour passer les examens justement dans les facs. Mais vu que là, avec le Covid, tout ça, je sais pas si c'est en présentiel ou si ça peut se faire en ligne. Mais ouais. Et après, vers juillet, août, on a les résultats. Et je crois, il me semble que c'est. Et qui m'ont appelé pour me dire que j'ai été prise. Ou sinon, ils ont envoyé. Un mail pour dire vous pouvez aller sur telle page avec le lien et vous entrez le numéro de votre dossier et pour voir si vous avez été accepté ou non.
D'accord, ok, donc théoriquement pas si compliqué que ça du coup de passer en Espagne, quoi.
Non, ouais.
Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux faire après? Est-ce que tu as déjà quelques petites idées en tête?
Bien sûr, depuis toujours.
Raconte-moi un peu.
Alors, bah, j'adore les enfants, donc du coup. Depuis toute petite, je me dis je vais être pédiatre. Et alors, pendant le stage en troisième, le stage d'orientation, bah, j'ai eu la chance de le faire avec un pédiatre généraliste. Mais on va dire que cette expérience m'a un peu dégoûtée de la pédiatrie.
Ah, intéressant.
Parce que bah, justement, le pédiatre, il était très endormi, on va dire. Et puis, il n'expliquait pas trop ce qu'il faisait. Enfin, il m'expliquait pas à moi ce qu'il faisait. Après, je veux bien en entendre que j'étais qu'en troisième. Donc, il se dit, oui, c'est juste un stage d'observation comme ça pour valider le dossier en troisième. Mais moi, vraiment, j'étais très demandeuse et j'ai pas eu tout ce que je voulais. Donc, j'étais un peu restée sur ma faim. Mais j'étais un peu dégoûtée du coup. Mais après, avec les stages aux urgences que j'ai pu faire pendant une semaine, ils m'ont autorisée à aller en urgence pédiatrique. Et là, non, je suis retombée amoureuse des enfants. Donc, c'est sûr que je vais faire pédiatrie.
Ok.
Mais après, je pense faire une surspécialisation, mais je ne suis pas encore sûre.
D'accord. Et est-ce que c'est comme en France où t'as un deuxième concours avec les ECN ou c'est complètement différent du coup en Espagne?
C'est exactement pareil. Mais sauf qu'il me semble qu'en France, le concours, il est à la fin de la sixième année, alors que nous, ici en Espagne, on finit les cours à la fin de la sixième année et après, on a jusqu'à avril de l'année d'après. En gros, c'est pendant la septième année, mais pendant cette septième année, on n'a pas du tout de cours, ni de stage, ni rien du tout. Et à la fin de cette septième année, on passe le concours. En gros, on a 7-8 mois de préparation.
Ah oui, donc ouais, du temps quand même pour pouvoir préparer ça. Il n'y a pas d'internat ni d'externat du coup. Enfin si, tu m'en as parlé, remarque. Tu m'en as parlé.
Ouais, si justement après ce concours, c'est l'internat. Et après, c'est exactement comme en France. On fait les stages, les gardes, etc.
Et donc du coup, combien d'années d'études encore pour toi
Ouf, alors,
là?
ça c'est sûr, rien du tout. mais on va dire, si je redouble pas, j'ai encore la quatrième, la cinquième, la sixième. Ça, c'est 3 années de cours. Après, la septième, on va dire,
Révision,
on va la compter comme une année.
ouais.
Ouais, mais c'est quand même comme une année avant la fin pour le diplôme, quoi. Donc, ça fait 4 ans. Et après, en fonction de la spécialité, on peut rajouter 4 à 5 ans.
Mais toute façon, pour toi, c'est pareil puisque tu ne comptes pas le temps quand tu travailles. Ok. Est-ce qu'il y a un petit dernier mot que tu voudrais dire à ceux qui nous écoutent?
Ouais, franchement, si vous avez un rêve, foncez. Parce qu'au final, si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Et vous pouvez le regretter toute votre vie. Ou même si c'est juste 2, 3 ans après ça, vous allez le regretter. Et au final, ça restera comme un goût d'inachevé au fond de vous. Et en soi, il n'y a rien qui peut vous retenir de faire ce que vous voulez. Allez-y. Et au final, faut pas se dire, ouais, si j'y arrive pas, je vais perdre une année. Parce qu'au final, on ne perd rien parce que pendant cette année, vous apprenez des choses. Peut-être ça va pas vous servir, peut-être ça va vous servir pour plus tard, mais au final, vous vous enrichissez et c'est ça la plus belle chose au monde, c'est vraiment de s'enrichir. Et après, faites ce que vous voulez, soyez respectueux et très humain aussi parce que c'est difficile pour tout le monde, surtout avec le contexte actuel, c'est difficile pour tout le monde. Donc vraiment, si vous pouvez aider la personne qui vit près de chez vous ou qui est à côté de vous en cours ou quoi et que vous la voyez pas bien et au bord des larmes, etc., allez la voir. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous êtes à cette place, à sa place, à cette personne, vous aimerez bien que quelqu'un vienne vous aider et discuter avec vous. Donc, juste soyez humain et vous robotisez pas trop non plus, quoi.
Un très beau message d'amour de ta part et je suis tellement d'accord avec ce que tu as dit. C'est vrai que même si on réussit pas cette année-là, sa première année, et qu'on n'est pas satisfait de ses résultats, au final, on n'aura peut-être pas appris tout ce qu'on veut, mais au moins on aura appris sur soi-même et on sera meilleur sur la prochaine fois.
C'est ça.
Écoute, Muriel, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de t'avoir au podcast. N'hésitez surtout pas à aller la voir sur Instagram. Donc, je répète, c'est estud en minuscule point medicina en espagnol, en minuscule aussi. N'hésitez surtout pas à aller lui envoyer un message si vous avez quoi que ce soit comme question sur les études en Espagne ou sur quoi que ce soit d'autre. Elle est ultra accessible, elle vous répondra assez vite, j'en suis sûr.
J'essaye de répondre au plus vite.
Et écoute, je te souhaite un bon courage pour la suite et j'espère que tu pourras devenir pédiatre comme tu l'entends.
Merci beaucoup, c'est très gentil.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Si t'as bien aimé, comme toujours, la meilleure façon de soutenir, c'est de mettre 5 étoiles au podcast. Comme ça, il sera mieux référencé et ça nous aidera à trouver des nouveaux invités. D'ailleurs, si tu penses que ça peut aider un ou une de tes potes, n'hésite pas à lui partager. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.